Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous parle aujourd'hui du roi Hérode. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Hérode le magnifique, Hérode le sanguinaire, Hérode le bâtisseur, Hérode le vendu, Hérode le séducteur, Hérode tyran monumental, comme le titrait un magazine américain à propos de ce roi de l'antique Judée. Le personnage est très connu outre-Atlantique, il l'est nettement moins chez nous. Eh bien, les choses vont changer dans l'heure qui vient grâce à notre invité, puisque Vincent Mélan connaît Hérode comme si c'était un ami proche.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît sur les origines de l'appellation d'Asie mineure pour désigner la partie asiatique de l'actuelle Turquie.
Eh bien, ça nous permettra de rester dans l'Antiquité. Pour l'instant, je vous propose donc de descendre plus au sud, sur le tour méditerranéen, et de nous retrouver sur les côtes syro-libanaises puis palestiniennes. Arrêtons-nous ici, si vous voulez bien, et entrons visiter l'antique royaume de Judée.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La Judée, un pays au croisement de l'histoire et de la Bible. La Judée, bordée par la Samarie au nord, au sud par le Néguev, entre la Méditerranée bien sûr et la vallée du Jourdain. C'est l'ancien nom de l'actuel Israël, ce que les Romains plus tard rebaptiseront Palestine. Vous sentez le vent chaud de Galilée qui déjà nous enveloppe? Voici l'un des berceaux de la civilisation judéo-chrétienne, le pays où naît Jésus de Nazareth à la toute fin du règne d'Hérode Ier le Grand. Hérode est un symbole de richesse et de cruauté mêlée, c'est ce que je disais dans cette ouverture d'émission, un mélange de sombre splendeur et de massacre lumineux, si j'ose dire. Nous allons revenir avec Vincent Mélan sur son cas, sur son règne, sur les vestiges fantastiques qu'il a laissés et que l'on peut encore visiter en Israël. Ce que l'on en sait sur un plan historique, je ne parle pas ici de ce que disent les évangiles, nous le devons à un historien juif de langue grecque, Flavius Joseph. C'est qu'en ce temps-là, la Judée est sous domination politique et militaire des Romains. Ça a commencé avec le général Pompée, qui l'a mise en coupe réglée en 63 avant Jésus-Christ, et ça finira un siècle et demi plus tard avec le grand Titus, futur empereur, qui va assiéger Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, avec son général Flavius Silva, qui viendra à bout des ultimes familles juives réfugiées dans l'impressionnante Massada. Ça, c'était en 73 de notre ère. Quand je dis Massada, ça me rappelle toujours, vous savez, ce fabuleux feuilleton de la télévision dans les années 80 avec le regretté Peter O'Toole. Comment ne pas se rappeler aussi évidemment la superproduction Ben-Hur avec Charlton Heston dans le rôle de Judas Ben-Hur, prince de Judée. Et puis bien sûr Salomé, qui à l'issue de la célèbre danse des sept voiles demandera au roi Hérode Antipater, le fils d'Hérode, qu'il lui livre sur un plateau la tête de Saint Jean-Baptiste. Salomé, dans les souvenirs de notre époque, c'est Rita Hayworth, évidemment. Ça a été jadis Sarah Bernhardt dans la pièce d'Oscar Wilde, qui devait d'ailleurs inspirer à Richard Strauss son sublime opéra. Quand je vous dis qu'on est là au cœur de nos références et de nos classiques. Alors, pour ma part, si je devais rattacher ce morceau bigarré d'histoire à un univers fantasmé de mon adolescence, ce serait celui de deux merveilleuses tragédies du grand siècle, Bérénice de Racine et Tite et Bérénice de Corneille. Nos deux immenses tragédiens, l'ancien Corneille et le nouveau Racine, ont en effet rivalisé en 1670 sur ce thème inspiré des amours contrariés de Louis XIV et de Marie Mancini. À l'époque où je lisais cela, et je le lisais avidement, je n'avais pas assez creusé la base historique du drame pour réaliser que Bérénice n'était autre que l'arrière-petite-fille d'Hérode le Grand et que l'histoire de sa liaison avec le futur empereur et l'empereur Titus, rapportée par les historiens de l'Antiquité, que cette histoire n'avait rien d'une fiction. C'est un pan de l'histoire judéenne. Alors, à titre de préambule à cette émission consacrée à la Judée en général et à Hérode en particulier, j'aimerais vous la raconter, cette véritable histoire de Bérénice et de Titus. Hérode le Grand, je vous l'ai dit, est mort en 4 avant Jésus-Christ. Ce qui, du reste, pose toutes sortes de questions à propos de la date réelle de la naissance de Jésus, à propos de la datation du massacre des innocents, etc. Et puis, à propos surtout de la réalité du dit massacre et de son commanditaire. On y viendra tout à l'heure, évidemment, avec Vincent Mélan. L'histoire qui nous occupe, dites-vous bien qu'elle se situe 3 générations plus tard. Elle commence dans les années 67-68, lors de la campagne de Vespasien en Galilée, le futur empereur romain Vespasien étant le père de Titus. On est en plein cœur de ce qu'on va appeler la grande révolte. Les Juifs de Judée viennent de se dresser une nouvelle fois contre Rome. Vespasien est donc envoyé par l'empereur Néron rétablir l'ordre dans ce Proche-Orient tout à fait turbulent déjà. Qui règne sur place à l'époque, c'est Agrippa II, qui est le frère de la belle, de la sublime Bérénice, un allié de Rome, Agrippa. Seulement, ses tentatives pour empêcher la rupture entre Rome et les Juifs vont se révéler vaines. Il va donc falloir lui, en quelque sorte, prêter main forte à Vespasien. Vespasien se rend donc à l'invitation d'Agrippa II, accompagné de son fils Titus. Bérénice accompagne de son côté son frère, Agrippa, dans ses rendez-vous politiques avec les Romains. Elle l'accompagne, ses beaux yeux grands ouverts. Et c'est comme ça que son regard va croiser celui de Titus. Titus est âgé de 29 ans à l'époque et il est déjà veuf. Quant à Bérénice, il faut savoir qu'elle est plus âgée que lui. À l'époque, elle a déjà 40 ans. Il n'empêche, dès le premier regard, Titus est tombé sous le charme de la reine juive. Quant à Bérénice, rien ne laisse penser qu'elle n'était pas amoureuse, même si certains estiment que sa relation avec Titus n'a pas été, sur le coup, dénuée d'un certain nombre d'arrière-pensées politiques. Encore une fois, vous comprenez bien qu'il s'agit d'aider à la relation entre ces deux politiques. Au moment de la rencontre, ça fait 130 ans donc que la Judée est sous le contrôle des Romains, une occupation qui est effective depuis, je vous l'ai dit, 63 avant notre ère. À la mort d'Alexandra Salomé, de la dynastie des Asmonéens, alors ça, il va falloir que dans un instant, Vincent Mélan éclaire un peu notre lanterne. À la mort donc d'Alexandra Salomé en 67, l'aîné de ses fils devait monter sur le trône. Seulement son frère, qui s'appelle Aristobule II et à qui sa mère avait confié le commandement de l'armée, s'y oppose. Il pousse son frère à abdiquer et voilà comment il va se retrouver lui-même sur le trône. Il faut vous dire que le peuple se divise. Certains défendent un des frères et les autres, notamment les prêtres sadducéens, sont fidèles à ce roi Aristobule II. L'empereur romain Pompée envoie alors son lieutenant prendre possession de la Syrie et du royaume asmonéen. Il négocie avec les deux prétendants de la région, donc avec Aristobule et son frère. Par l'argent, Pompée maintient en place les souverains locaux en échange de leur soumission sans réserve. Et disons-le, parce que ce sont les mœurs de l'époque, seulement de l'époque, en échange d'un pot de vin conséquent. Voilà ce qu'écrit Christian-Georges Schwenzel dans son ouvrage Hérode le Grand. Je le cite, « Cette politique a de nombreux avantages pour Rome. Il s'agit de gérer et d'exploiter les territoires conquis à moindre frais en s'appuyant sur les élites locales et en limitant le nombre d'agents romains envoyés sur place. Les anciennes aristocraties indigènes, trop heureuses de conserver leurs prérogatives, font le travail à la place et au profit des Romains. » Voilà effectivement comment ça s'est passé. Et ça n'est pas la seule fois, du reste. Ça va devenir presque une habitude. Alors, le lieutenant romain choisit Aristobule II, maître du temple et du trésor sacré. Mais ça, c'était compté sans Antipater, qui va partir directement à la rencontre de Pompée. Il veut persuader l'empereur de revenir sur la décision du Romain. Pompée ordonne à Aristobule de lui livrer toutes les places fortes de Judée avant de s'emparer du territoire, d'emprisonner Aristobule. Les Juifs qui soutiennent Aristobule ne vont pas se laisser faire. Évidemment, ça va faire des conflits, des combats. 12 000 morts, surtout des Juifs, évidemment, c'est une victoire des Romains. Pompée, à ce moment-là, donne le titre de grand prêtre à Hircan, qui était donc le frère d'Aristobule. Mais pour autant, il n'a pas de titre royal. Il va s'engager à payer aux Romains un tribut annuel au nom des Juifs. Là, cette fois, on peut dire que c'est la fin de l'indépendance juive, une indépendance qui avait été gagnée un siècle plus tôt.
500 sur Europe 1, un extrait de l'opéra Samson et Dalila, interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres. Nous repartons avec vous, Franck Ferrand, dans la Judée antique.
Alors, on est à l'époque, vous avez bien compris, qu'on est à l'époque de César. En 49 avant notre ère, César chasse Pompée. Il devient lui-même le patron, si je puis dire, à Rome. Je ne sais plus quel terme employer. Le vrai terme, c'est dictateur. Mais ce terme a une telle connotation dans notre langue qu'il faut, il faut toujours l'employer avec méfiance. On pourrait presque dire empereur, mais César n'a pas été couronné empereur. Il libère Aristobule, parce qu'il considère qu'à partir du moment où Aristobule était l'ennemi de Pompée, bah, il est forcément son ami à lui. Il le renvoie en Orient avec pour mission de soulever la Judée contre les partisans de Pompée. Sauf qu'Aristobule va mourir en chemin. Antipater va se rallier à César. Il lui envoie ses armées lors du soulèvement d'Alexandrie en Égypte. Et pour le remercier, César va faire deux choses. D'abord, il confirme Hyrcan comme grand prêtre. Et il fait d'Antipater le procurateur, c'est-à-dire l'homme fort de la région, l'homme fort de la Judée. Antipater va donner des territoires à ses deux fils, Phasaël obtient Jérusalem et Hérode gère la Galilée. Le voilà, Hérode, qui prend donc le pouvoir. À la mort de César, il garde son territoire, tout comme son frère et son père. Ils sont confirmés, toujours grâce, dans des conditions qui ne sont pas toujours très, très nettes, inutile de vous le dire. Le danger vient du dernier fils d'Aristobule, qui s'appelle Antigone. En moins 42, celui-ci envahit la Judée. Hérode le repousse. Deux ans plus tard, il réussit à prendre le trône à Hyrcan avec l'aide des Parthes. Hérode fuit à Rome avant de reconquérir son royaume. Ça va quand même durer deux ans et demi, hein, entre 40 et 37. Il commence par faire trancher la tête d'Antigone dès qu'il est de retour. Et à sa mort, donc à la mort d'Hérode en 4 avant notre ère, le royaume est partagé entre sa sœur et ses deux fils. Mais rapidement, évidemment, le contrôle romain se développe. La Judée gagne un peu d'indépendance sous Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode, et sous le règne de son fils, donc Agrippa. Agrippa II, nous y voici. Je dis nous y voici parce que Bérénice, rappelez-vous, est la sœur d'Agrippa II, donc l'arrière-petite-fille d'Hérode le Grand. Elle est princesse de Judée, elle tient officiellement, on peut dire, la place de première dame, enfin de reine auprès de son frère. L'historien Flavius Joseph parle même d'une relation incestueuse entre les deux. Elle n'hésite pas à défendre son peuple. Flavius Joseph assure qu'elle intervient au péril de sa vie auprès du procurateur de Judée. Au début de la révolte de 66, elle le supplie de mettre un terme à la cruelle répression qu'il inflige aux Juifs. Pour l'historien antique Dion Cassius, Bérénice était au sommet de sa puissance à cette époque. Bérénice est connue également pour la rénovation, pour l'embellissement de la cité, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Alors, il y a donc, à la fin des années 60, cette rencontre entre Titus et Bérénice. Ça fait 10 ans que Titus, le fils de Vespasien, est tribun militaire, d'abord en Germanie, puis en Bretagne. Il se fait connaître 2 ans avant le couronnement de son père, lorsque Vespasien devient légat de Judée, et tous les deux vont réussir à mettre un terme à cette révolte juive. Vespasien va devenir empereur 2 ans plus tard, et son fils va suivre la même carrière. Il est légat de son père en Judée, d'abord pour réprimer l'insurrection, il a tout juste 30 ans, et puis il va terminer le travail. Titus va en 70 conquérir Jérusalem. C'est le siège de Jérusalem durant lequel la ville est détruite. Et c'est le moment, vous savez, en 70 de la destruction du second temple de Jérusalem. Et à la mort de son père, eh bien, à son tour, il devient empereur. Et il lui succède à la tête de l'Empire romain. Sauf que, évidemment, au moment où il rencontre Bérénice, il n'est pas encore empereur, bien entendu. Ce n'est donc pas la première fois que Titus se marie. Je vous l'ai dit, il a été marié d'ailleurs 2 fois. La première fois avec une certaine Aresina Tertulla, peut-être un mariage arrangé pour promouvoir la carrière politique et militaire de ce jeune homme. Et puis une deuxième épouse, Marcia Furnila, qui était la fille d'un sénateur. Encore un mariage tout à fait opportun, mais dont était née néanmoins une fille dont il s'occupera lors de sa séparation d'avec Marcia Furnila. On est en pleine révolte juive au moment où Titus rencontre donc Bérénice. Je vous ai dit que tous les deux étaient très vite tombés amoureux. Et si l'on en croit Tacite, parce qu'évidemment il faut croire les quelques auteurs latins qui nous racontent cette histoire, Tacite nous dit qu'en 68, Titus est envoyé par son père à Rome pour rencontrer le nouvel empereur, Galba. En chemin, il apprend que celui-ci est assassiné, il fait donc demi-tour. Il craint qu'Othon ne le garde prisonnier à Rome pour s'assurer de la fidélité des légions de Vespasien. Titus se sauve, il repart en direction de son père vers la Syrie. Mais, ajoute Tacite, certains racontent qu'il rebroussa chemin à cause de son désir de revoir la reine Bérénice, et Suétone de son côté parle d'une célèbre passion. Tacite ajoute que Vespasien aurait lui aussi succombé au charme de la reine, à la fleur de l'âge et de la beauté, nous dit-il. Alors, une fois Jérusalem prise, en 70, Titus choisit de rejoindre son père à Rome. Son père est devenu l'empereur, alors il faut l'aider à gouverner d'une certaine manière. Bérénice n'a pas suivi son cher Titus à Rome. C'est ce que rapporte Dion Cassius. Mais Dion Cassius ne nous dit pas pourquoi elle ne l'a pas suivi. Quelles sont les raisons de cette séparation ? Bérénice, en tout cas, ne rejoindra Titus qu'en 75. Alors là, elle se rend à Rome, toujours en compagnie de son frère, vous savez, Agrippa II. Agrippa est en voyage officiel, donc elle fait partie de la délégation, si je puis dire. Il est reçu par Titus au palais. À l'issue de l'entretien, il ressort avec le titre de prêteur. Quant à Bérénice, eh bien Bérénice, à ce moment-là, s'installe au Palatin et la rumeur commence déjà à courir dans Rome. Tous les deux, Titus et Bérénice, vivent déjà de manière maritale.
Sur Europe 1, un extrait de La danse des sept voiles, extrait de la bande originale du film Salomé sorti en 1953 avec Rita Hayworth. Revenons à la Judée antique, à l'histoire de Titus et Bérénice avec vous, Franck Ferrand.
Alors, vous imaginez bien que la position de Bérénice, qui s'est installée au Palatin, qui est tout près de son amant Titus, est une position fragile. Car même si à ce moment-là, elle est au sommet de sa gloire, seule une union légale avec l'empereur pourrait la conforter. Dion Cassius affirme même qu'elle attendait qu'il l'épouse et se comportait en toutes occasions comme si elle avait été sa femme. Et si l'on en croit Suétone, Titus lui avait même promis le mariage. Or, en 79, la situation change, car le vieil empereur, le père de Titus Vespasien, vient à mourir. Titus devient pleinement l'empereur. Il demande dans l'immédiat à Bérénice de quitter Rome, malgré lui et malgré elle, ajoutent les historiens antiques. Et évidemment, cette double précision, malgré lui, malgré elle, va par la suite faire couler beaucoup d'encre, notamment de la plume de nos chers tragédiens. Bérénice se retire en Orient, dans le palais de son frère, et c'est là qu'elle finira sa vie. Alors, pourquoi est-ce que Titus a renvoyé Bérénice ? Quelle est la raison ? L'hypothèse de Suétone et de Dion Cassius, c'est que Titus a réalisé que les Romains n'appréciaient pas du tout cette relation qu'il avait avec Bérénice. Et certains historiens imaginent que cette décision de Titus n'était peut-être valable que pour le début de son règne. Peut-être avait-il en tête d'attendre un moment plus favorable pour épouser Bérénice. Seulement, il n'en aura pas le temps, parce qu'il va lui-même mourir rapidement le 13 septembre 81. Alors, on imagine bien entendu les circonstances terribles de cette cette rupture entre Titus et Bérénice. Et pour les gens du XVIIe siècle, ça rappelait une autre rupture célèbre, bien entendu. C'était celle entre Louis XIV et Marie Mancini. Vous savez ce qui s'était passé. Certains disent même qu'il pourrait y avoir une allusion, peut-être même encore plus précise, à la relation qu'entretenait Louis XIV avec sa propre belle-sœur, Henriette d'Angleterre. Dans un cas comme dans l'autre, il avait de toute façon fallu mettre fin à une idylle qui était tout à fait impossible politiquement. Et ça, c'est un ressort dramatique magnifique, bien entendu. Il y a au moins eu une confrontation entre Corneille et Racine au moment de l'écriture de ces deux pièces. Alors, elles sont écrites en même temps, elles sont présentées quasiment en même temps, à quelques semaines d'écart. Racine écrit Bérénice et Corneille écrit Tite et Bérénice. Le public est là pour juger de la qualité des vers. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, vous avez une vision extrêmement politique de Corneille qui, une fois de plus, enserre ses personnages dans une lutte entre le devoir et la passion. Et vous avez ce chef d'État qui est obligé de renvoyer celle qu'il aime parce qu'il est complètement prisonnier du devoir, etc. Mais on a l'aspect avec Corneille qui est un aspect politique, qui est un aspect moral. Et puis Racine, lui, a traité les choses tout à fait autrement. Il a choisi de les prendre par les sentiments, si je puis dire. Il nous présente ces personnages prisonniers de passions contrariées. Et il nous montre tout simplement un homme et une femme qui souffrent. Et c'est sans doute ce qu'attendait le public, bien entendu. Car évidemment, on peut dire clairement que la Bérénice de Racine l'a emportée. Elle a été plébiscitée par le public. Ça n'est pas facile pour moi, grand cornélien, de vous dire ça. Mais je dois reconnaître que dans cette circonstance, Corneille a été en quelque sorte battu par Racine. Il est vrai que les vers de Racine sont absolument irréprochables. « N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix, il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur, vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur, aidez-moi s'il se peut à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse, ou si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il nous faut séparer. À quoi Bérénice répond « Ah, cruel, est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignorez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois ?» Bonjour Vincent Mélan.
Je suis content d'avoir eu un peu de Racine.
Un peu de Racine.
Ça fait du bien. Alors, dans une journée compliquée.
Je vous ai épargné un peu de Corneille, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les vers de Tite et Bérénice sont largement au niveau de ceux de Racine. Mais c'est vrai que la psychologie qui fait paraître Corneille est peut-être moins sophistiquée, moins raffinée, moins en prise sur l'air du temps que pouvait l'être celle de Racine. Alors, si vous voulez, avec vous, nous allons quitter le XVIIe siècle, les tragédiens, les amours contrariés de Tite et Bérénice. Tite, comme on disait dans l'ancien français, hein, pour cet empereur Titus, et revenir à l'arrière-grand-père, à l'aïeul, à celui qui vous passionne, c'est-à-dire cet Hérode le Grand. Pourquoi cette passion pour Hérode ?
J'ai toujours été fasciné par Hérode le Grand. Je pense que c'est lié à un souvenir de catéchisme. Ça devait être au moment où je préparais ma première communion. Je crois me souvenir d'un livre de catéchisme où on parlait du massacre des saints innocents. Et ça m'avait vraiment frappé. Je me suis dit, ce type est absolument... Enfin, j'avais eu peur.
Il était effrayant,
je crois que j'avais eu peur.
Oui,
je m'étais dit, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qui... Ces pauvres enfants à Bethléem qu'on a assassinés, égorgés. Hérode, je voyais ça comme un ogre. Enfin, c'était un truc. Puis, moi, il y avait Bénure qui était très fort.
Eh oui.
Parce que j'ai une tradition familiale où on regarde Bénure quasiment tous les lendemains de Noël. Donc je l'ai vu 50 fois, je le connais par cœur, je connais toutes les répliques, je connais même le Bénure avec Ramon Novaro et de Fred Niblo qui est antérieur d'une vingtaine d'années, qui est spectaculaire. Je collectionne les éditions de Bénure.
Oui, il y en a eu là un récent, un allemand là, qui est sorti l'année dernière. Alors, nous allons revenir évidemment à cette Judée antique et au personnage d'Hérode qui, pour vous, me disiez-vous en préparant cette émission, est un peu le Louis XIV de l'Antiquité.
Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Hérode le Grand avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Vincent Mélan, rédacteur en chef à Point de Vue, passionné d'Hérode.
Et Aurélie nous demande via Facebook d'où vient l'expression « vieux comme Hérode ». Ben, précisément, c'est que ça nous ramène quand même quelques temps en arrière, cette histoire.
C'est antérieur au Christ.
C'est
antérieur à l'ère chrétienne.
Alors justement, quelle est la période exacte? Je disais qu'il est mort en moins 4. Or, les évangiles nous disent qu'il a ordonné le massacre des innocents.
Il y a sans doute eu un massacre, ou peut-être n'y en a-t-il pas eu, on n'est pas certain. Ce dont on est certain, c'est que Hérode le Grand est mort avant la naissance du Christ. Donc il n'a rien à voir avec un éventuel massacre des saints innocents, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été un monstre sanguinaire épouvantable. Ça, il n'avait pas besoin des saints innocents pour ajouter à son karma quelque chose de terrifiant. Mais en tout cas, dans l'histoire sainte, il n'intervient pas du tout.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que les sources dont nous disposons pour parler de tout cela sont relativement étroites. Il y a Flavius Joseph, il y a quelques historiens de l'Antiquité, on peut pas dire qu'on n'ait pas d'archives, mais on a relativement peu d'éléments historiques, et l'on a bien sûr, et ça c'est important, et de plus en plus depuis les années 1960, on a l'archéologie qui est venue au secours des sources.
C'est surtout l'archéologie et les bâtiments absolument extraordinaires qu'on a excavés, qu'on a mis à jour en Israël aujourd'hui, qui permettent de se faire une, qui ont modifié la perception qu'on avait d'Hérode le Grand. Parce que on avait des condamnations d'Hérode qui étaient des condamnations religieuses dont on vient de voir qu'elles étaient totalement infondées, en tout cas de la part du christianisme, et on avait une image extrêmement négative, en plus avec toute la suite de descendants, et Saint Jean-Baptiste, et Bérénice et Titus, etc. Plus, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y avait dans cette dynastie hérodienne tout un tas de femmes qui étaient quand même femmes fatales,
oui,
un peu étranges. La sœur d'Hérode, Salomé, qui est la première Salomé de la dynastie, est une femme absolument terrifiante, qui était très amie de l'impératrice Livie, qui empoisonnait quand même quasiment tout
la
le monde.
La
femme d'Auguste. Donc c'était pas des gens... L'époque était comme ça, donc Hérode n'était pas tellement pire que les autres. En revanche, ce que les autres n'ont pas fait, et que lui a fait, et qu'on voit aujourd'hui, c'est cette richesse archéologique, artistique, culturelle, fabuleuse.
Et architecturale. Alors on va y venir à ça. Mais avant, j'aimerais rester un peu sur le personnage, si vous le permettez, parce qu'il faut, quand même, Vincent Mélan, puisqu'on a affaire à un des grands cruels de l'Antiquité, profitons-en. Est-ce que cet aspect sanguinaire qui nous est présenté n'est pas une déformation des historiens latins et grecs, justement?
Évidemment, attendez,
ça les faisait fantasmer.
Les impostures, on en détruit tous les jours. Vous venez de le dire, les femmes ont eu un rôle fondamental, personne ne leur donne un rôle dans l'histoire antique, parce que c'est une vision du rôle de la société où la femme n'a aucune importance au 19e siècle, donc on les néglige totalement. Michelet parle pas tellement des femmes dans l'Antiquité, il parle des rois, parce que pour lui c'est une société d'hommes, donc on transpose. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, par exemple, de la fausse légende qu'on a donnée à Hérode, c'est de l'opposer à certains personnages à qui on en a donné une bonne.
Et
Saladin,
voilà,
par exemple, a toujours longtemps été considéré comme quelqu'un de très très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui vous disent que c'était un affreux type qui a vendu en esclavage toute la population de Jérusalem quand il a pris la ville. Donc l'histoire peut s'interpréter dans les deux sens. Il y a des périodes. Hérode n'était pas pire que les gens de son époque, où Cléopâtre était quand même une souveraine qui était, et son exacte contemporaine. Cléopâtre a été très sanguinaire.
Mais alors, quand on parle de l'Égypte ptolémaïque, hein, de l'Égypte de Cléopâtre, quand on parle de l'Empire romain, n'en parlons pas, évidemment. D'une façon générale, on a l'impression que tout ça est assez clair, assez simple à saisir. Dès qu'on arrive dans ce Proche-Orient, c'est d'une complexité. Il était coincé, si je puis dire, cet Hérode, entre les Juifs orthodoxes, ceux qui ne l'étaient pas, les Zélotes, les pharisiens qu'il détestait, et puis donc les Romains qui venaient se mêler à tout ça. On a une impression de confusion, de complexité. D'ailleurs, moi-même, dans mon récit tout à l'heure, je me suis moitié pris les pieds dans le tapis au milieu de toutes ces dynasties qui non seulement s'opposent les unes aux autres, mais s'appuient sur des groupes religieux
différents.
Et ethniques différents, mobiles,
et ennemis.
C'est un vrai panier de crabes, cette Israël antique, en quelque sorte.
C'est un peu une démonstration de ce qu'une société totalement dépourvue de laïcité peut entraîner comme dérive.
Exactement, hein.
Parce que pour le coup, je pense que l'une des grandes, et Dieu sait que je suis catholique, mais il ne faut pas tout mélanger, je pense que l'une des grandes confusions qu'on a avec Hérode le Grand est née justement de l'interprétation religieuse qu'on lui donne. Si le Christ n'était pas né à Bethléem 4 ans après sa mort, et s'il n'avait pas vécu en Israël comme il l'a vécu, et si toute l'histoire sainte n'était pas liée au pays d'Hérode, peut-être qu'il y aurait eu une histoire d'Israël qui aurait été beaucoup plus laïque et apaisée, dans laquelle on ne lui aurait pas donné cette légende noire,
oui,
que la première église lui a vraiment donné. Donc à l'époque d'Hérode, c'est vrai qu'Israël est déjà quand même un pays très compliqué. Vous avez cité les pharisiens qui interprètent
la
loi
d'une
manière...
C'est Israël qu'on appelle la Judée à l'époque, qui va devenir la Palestine.
Ça va au-delà.
Un peu au-delà
Hérode,
de la Judée, oui.
En fait, a réussi à donner au royaume d'Israël son plus grand développement politique jamais atteint, puisqu'il avait non seulement la Judée, mais il avait la Samarie, il avait la Galilée, il avait l'Idumée, il avait la Jordanie actuelle. Il pousse très très loin les limites du royaume. Donc c'est la plus grande expression politique d'Israël, le royaume d'Hérode. Ça va être de deux côtés de la vallée du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Et donc, dans tout ça, il a une mosaïque de peuples. D'abord, les juifs lui reprochent de ne pas être juif, parce que c'est son grand-père qui s'est converti au judaïsme. Il était iduméen, c'est-à-dire plutôt du sud, un petit peu vers Aqaba ou Eilat actuellement. Donc, son grand-père s'est converti au judaïsme. Son père, pour le coup, était juif, et lui-même l'est, mais les juifs très orthodoxes lui reprochaient de ne pas être juif 100% pur sang. Et les juifs entre eux-mêmes n'étaient pas du tout harmonieux les uns avec les autres. Les Asmonéens étaient toujours vivants.
Alors, parce que cette dynastie... qui sont ces Asmonéens?
C'est la dynastie antérieure à celle des Hérodiens. Et en fait, on a transformé le pouvoir politique des Asmonéens en un pouvoir religieux, puisqu'on les a fait grands prêtres. La reine Alexandra Salomé, que vous avez citée, était quand même une garce épouvantable. Je veux dire, plus sanguinaire que la reine Alexandra Salomé, c'est difficile à trouver. C'est vrai que l'époque n'était pas simple. Mais tout ça s'entremêle, puisque Hérode, parmi ses multiples épouses, a épousé entre autres Mariamée, qui est la fille d'Alexandra Salomé et la sœur des rois asmonéens que vous avez cités.
Lui avait fait tuer son frère, hein, c'est bien ça.
Mais Hérode, il a fait tuer son... Vous voulez dire Hérode lui-même?
Oui.
Non, mais Hérode, on s'y perd. Il a fait tuer ses frères, il a fait tuer ses fils, il a fait tuer ses femmes. Non, mais je vous parle de Mariamée, là, qu'il a épousée, oui, qui est la dernière des asmonéennes. Il l'épouse pour asseoir son pouvoir politique en épousant la dernière héritière de la dynastie précédente, ce qui n'empêchera pas de la faire exécuter pour dire après qu'il en était fou amoureux. Et certaines traditions disent qu'en fait, tout jusqu'à la fin de sa vie, Hérode a eu un seul amour qui était Mariamée, qu'il avait fait assassiner, et que quand il avait des crises de folie, parce qu'il était quand même par moments un petit peu déséquilibré vers la fin de sa vie, il hurlait le nom de Salomé, de Mariamée, dans les salles du palais royal de Jérusalem. Donc il y a une tour.
L'assassinat le hantait en quelque sorte.
Le fait qu'il l'ait tué. Mais en fait, c'est très compliqué à dévider cet écheveau-là, parce que vous parliez de Salomé, de son prolongement aujourd'hui. Ce mythe d'Hérode, des Hérodiens, de Salomé, de Bérénice, tout ça, ça va jusque dans des choses très très présentes. Vous citiez toutes les manières dont on l'illustre aujourd'hui. Il y a une série américaine qui s'appelle True Blood, dans laquelle l'un des personnages centrales est Salomé, qui a survécu pendant 2000 ans et qui est devenu vampire. Alors c'est vrai que ce sont des mythes qui sont très profondément ancré dans l'inconscient collectif de tout le monde, et c'est très difficile d'arriver à trouver la vérité dans tout ça.
Notamment dans le monde anglo-saxon, pour une raison simple, c'est que ce sont des pays protestants où la présence des écritures, des évangiles est très grande, beaucoup plus que dans les pays de tradition catholique, et donc pour eux ces histoires-là sont plus immédiatement présentes. Hein.
C'est drôle que vous me disiez ça, parce que chaque fois que je vais à Jérusalem, j'ai souvent la même guide juive, elle me dit toujours, je n'ai jamais compris comment tu pouvais être catholique, il n'y a que les protestants qui connaissent aussi bien la Bible. Mais je ne sais pas, vous avez sans doute raison, peut-être.
Alors, il y a cette ambivalence d'Hérode. J'ai dit tout à l'heure, c'était un peu un clin d'œil, mais c'est parce qu'on s'était dit ça avant, que pour vous, c'était un peu le Louis XIV de l'époque. Quand même, Louis XIV était très loin de toutes les horreurs que vous venez de décrire. On n'était pas en face d'un personnage déséquilibré.
La conversion forcée des protestants après la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades, Fouquet, il y a quand même des choses... Les ravages du Palatinat, où on a rétabli le cannibalisme après le passage des armées de Louis XIV. Louis XIV n'a pas été un roi qui ménageait beaucoup la vie humaine. Hein. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont mortes sous le règne de Louis XIV. Donc, c'est pas un roi exempt de cruauté, Louis XIV. Il a construit Versailles. Moi, je trouve que le parallèle avec Hérode est assez évident.
Du point de vue du bâtisseur, ça.
Et même de la mort, Hérode était un roi guerrier, Louis XIV aussi. Hérode était un roi qui a fait quasiment crucifier des milliers de opposants ou qui les a convertis de force, Louis XIV aussi, les camisards et les protestants, c'est Louis XIV.
Il y a en même temps une volonté de pacification, d'une certaine façon.
Une volonté d'unification.
Oui.
Il y a une volonté de pouvoir et d'unification chez l'un comme chez l'autre. Ce sont des rois centralisateurs.
Mais Louis XIV n'avait pas de tutelle étrangère, alors qu'Hérode doit composer avec les Romains, tout de même.
Oui, enfin, il est quand même dans une période, la jeunesse de Louis XIV, la Fronde, tout ça, on sent quand même que c'est un moment où il y a énormément de tutelles qui essayent de s'imposer à lui. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de Louis XIV. C'est vrai que le génie d'Hérode, c'est ce génie politique. À chaque fois, il réussit à faire des coups politiques invraisemblables. Il soutient, par exemple, Antoine et Cléopâtre, surtout Antoine, jusqu'à la bataille d'Axium. Et lorsque Antoine perd la bataille d'Axium, il se précipite devant Auguste. Il s'agenouille quasiment devant Auguste, qui a été le vainqueur. Et il lui dit, empereur, tu as vu à quel point j'ai été fidèle à Antoine. Eh bien, dis-toi bien qu'à partir de maintenant, je te serai fidèle avec la même intensité et le même courage. Et Auguste, qui est totalement bluffé par ce personnage, qui est quand même un joueur de poker extraordinaire, le confirme non seulement dans ses fonctions, mais agrandit son territoire et lui donne encore plus que ce qu'il possédait.
Auguste est bien content qu'Hérode collecte les impôts pour lui et les lui envoie rubis sur l'ongle.
En plus, Hérode est quelqu'un qui est quand même très subtil parce qu'il aura cette intelligence de ne jamais faire frapper des pièces à son effigie. Donc les pièces étaient frappées à l'effigie d'Auguste. Donc par délicatesse et puis parce que ça n'était pas non plus admis par la religion juive, donc ces sujets ne l'auraient pas compris, il n'y a pas de pièce à l'effigie d'Hérode, il ménage énormément sa puissance de tutelle.
Voici donc un règne qui, au-delà des cruautés que nous avons évoquées, est un règne de stabilité, d'expansion et de magnificence, nous y venons, et de paix, nous y venons dans un instant.
Berlioz sur Europe 1, un extrait de l'enfance du Christ. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi d'Hérode. Franck Ferrand avec votre invité Vincent Mélan, rédacteur en chef à Point de vue, passionné d'Hérode.
Ah oui, pour tout vous dire, c'est surtout Vincent Mélan qui nous parle d'Hérode. Il n'a pas de terme assez louangeur pour vanter l'intelligence, la clairvoyance, la maîtrise de ce roi.
Les héros dans l'histoire qui ont tout servi sur un plateau d'argent, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est fascinant avec Hérode, c'est que c'est un survivant de tout. Il survit à une vie très compliquée. Son père était pas très tendre. L'époque était épouvantable. Le pays était occupé par les Romains. Sa famille était une famille d'empoisonneurs. Cléopâtre, à côté de lui, était une garce. Je veux dire, il était coincé entre les Parthes au nord, les Romains de notre côté, l'Orient avec les Perses, etc. Et ce type a survécu à tout. Et aujourd'hui, il arrive même à survivre à 2000 ans pendant lesquels on l'a honni tant du côté juif que du côté chrétien. Et aujourd'hui, on se rend compte en Israël et j'espère en France que ce type a été un roi absolument fabuleux.
Alors, quand on arrive en Israël, qu'est-ce qu'on peut voir encore aujourd'hui comme vestige de ce règne d'Hérode ?
J'ai envie de vous dire qu'à 90%, tout ce qui est archéologique aujourd'hui en Israël correspond à Hérode. Pour vous donner une image et reprendre la comparaison avec Louis XIV, on a tous à peu près dans la tête la façade principale de Versailles, le corps de bâtiment central, pas les ailes, hein, le corps de bâtiment central sur les jardins. Ben, il faut imaginer que la façade la plus longue du temple de Jérusalem qu'Hérode construit est beaucoup plus longue que cette façade de Versailles, beaucoup plus haute, parce qu'elle s'élève par moments sur une quarantaine ou une cinquantaine de mètres. Il y a des blocs de pierre qui sont acheminés là qui pèsent 170 tonnes. Donc on est sur un travail quasiment digne des pyramides. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel d'Hérode, qui a donné lieu à une polémique épouvantable
il y a des années.
Le tunnel d'Hérode, en fait, c'est simplement...
Il faut dire en deux mots ce que c'est, oui.
Oui, c'est très simple. Enfin, imaginez, on parle beaucoup du mur des lamentations, que les juifs appellent le kotel, le mur des prières. C'est pas des lamentations, c'est la partie qui est censée subsister de la terrasse sur laquelle était construite le temple d'Hérode, qui est construit à flanc de colline. Donc comme pour pas qu'il tombe, on a construit une immense esplanade de pierre. Donc encore une fois, je vous dis, la façade la plus longue est plus longue que la façade de Versailles, sur deux côtés, avec deux petits côtés. Et le mur des lamentations, c'est la partie droite qui subsiste, et en fait, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait que ça. Sauf qu'on s'est aperçu en fouillant que tout la partie que du temple d'Hérode, donc de cette longue façade, était enfouie sous la ville de Jérusalem, la ville mamelouque, la ville ottomane, la ville des croisades.
Donc ça va beaucoup plus loin,
ça
en
va
fait.
Jusqu'au
oui,
bout, ça. Jusqu'à l'extrémité, ça s'achemine sur des centaines de mètres. Et aujourd'hui, on a creusé, et donc dans ce tunnel d'Hérode, on suit le mur de soutènement du temple d'Hérode jusqu'à la Via Dolorosa, à l'emplacement où se trouvait un autre monument qu'Hérode avait construit, qui était la forteresse Antonia, qui était la résidence du procurateur de Jérusalem, qu'on voit beaucoup, par exemple, exemple, dans Bénur, on en parle beaucoup, et la forteresse Antonia, il y a encore des restes qui existent à Jérusalem sous le niveau de la Via Dolorosa, puisque la ville a augmenté de hauteur d'une dizaine de mètres depuis l'Antiquité. On a encore des boulets, par exemple, du temple du siège de Titus, qui sont conservés sur le sol de ce qui était autrefois la forteresse Antonia. C'est dans le couvent des sœurs de Notre-Dame de Sion qu'en descendant 10 mètres par un escalier, on se retrouve au niveau de la ville antique et qu'on a l'esplanade de la forteresse Antonia où le Christ a été présenté au peuple, voici l'homme, et où il a été flagellé, et on a les boulets du siège de 62 de Titus qui sont encore présents. Donc le temple, évidemment, on a sans doute le palais royal d'Hérode qui était exactement à l'opposé du côté de la tour de David, mais qu'on n'a pas eu la possibilité encore d'excaver, parce que vous savez, à Jérusalem, ce qui était toujours compliqué, il y a toujours 22 religions sur le même site, donc avant qu'on ait l'autorisation de creuser un petit trou, il faut 25 ans d'autorisation et de patience. Il y a surtout Masada, que vous avez cité tout à l'heure, qui est le plus beau palais suspendu.
C'est une forteresse gigantesque qu'il avait construit, enfin qui est surtout en très grande hauteur, en très grande altitude.
C'est très très haut, c'est un espèce de Mont Ségur fois 50.
C'est ça, voilà.
Avec un palais du milieu, un palais suspendu.
Et ça, c'est Hérode aussi. Hein.
Ça, c'est totalement Hérode. Et le palais suspendu est totalement suspendu à la proue du rocher. C'est grand comme 4 fois la place
avec
de la Concorde.
Avec un pic
gigantesque. Et on voit tout le désert d'un côté, la mer de Judée de l'autre côté. Enfin, c'est un truc absolument fabuleux.
Alors,
il y a Jéricho, les trois palais de Jéricho. Il y a l'Hérodion, la forteresse en forme de pyramide où
il a été. On va y venir tout à l'heure.
Il y a Césarée, surtout, la ville la plus belle de l'Antiquité, qui a été entièrement construite par Hérode. Tout est hérodien en Israël.
Et donc c'est un très grand urbaniste, c'est un immense bâtisseur, nous dites-vous, pharaonique, titanesque. Vous qui d'habitude, parce que quand je vous reçois ici, d'habitude Vincent, c'est pour parler de joyaux et de pierres précieuses. Est-ce qu'il y avait une espèce de richesse à la cour d'Hérode?
Oui, c'était la cour la plus fabuleuse d'Orient. Parce qu'en plus, il avait une chose, c'était l'une des raisons pour lesquelles Hérode et Cléopâtre se tapaient dessus, c'était les plantations d'un arbre extrêmement rare, qui se trouvait à l'époque dans la région de Jéricho, justement. Il y avait quelques centaines d'hectares d'un arbre qui dégageait un parfum extrêmement suave, qui était le parfum le plus coûteux de l'Antiquité. Et donc ces plantations d'arbres, de parfums, je sais un nom très spécial, représentaient quasiment 10% des revenus d'Hérode. C'était un truc fabuleux. Et Cléopâtre a voulu se les approprier. Hérode a refusé, il les a gardés, il a réussi à les garder. Et lorsqu'il meurt, il les lègue à sa sœur Salomé, qui elle-même les lèguera à l'impératrice Lévie. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on a vu, lors de l'exposition qui a eu lieu l'année dernière à Jérusalem, au musée de Jérusalem qui était consacré à Hérode, la vaisselle était somptueuse, l'orfèvrerie était somptueuse, la verrerie était somptueuse, il y avait quand même des artisans fabuleux.
Ce qui a l'air de manquer à tout ça, c'est un art littéraire en quelque sorte. On n'a pas de grand auteur là.
Vous savez, le problème d'Hérode, c'est qu'il était toujours contraint à énormément de choses. Parce qu'on ne vivait pas, par exemple, au palais de Jérusalem comme on vivait au palais de Césarée. Césarée avait été nommée Césarée en hommage à César. Donc c'est une ville qui était tolérante, dans laquelle on admettait certains usages romains. À Jérusalem, c'était beaucoup plus strict. Il y avait un hippodrome, mais la représentation des visages était exclue. Le roi était sans doute tenu à une nourriture quand même assez strictement cachère. Il n'était pas question de plaisanter avec ça. Il y avait un Shabbat qui était obligatoire, on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. L'une des raisons de la révolte des Juifs en 70, c'est l'installation des aigles impériaux et le fait qu'on voulait rendre un culte à l'empereur dans le temple de Jérusalem. Donc les Juifs étaient très à cheval là-dessus à cette époque-là, puis après tout c'était leur droit. Donc ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des traditions, par exemple, qu'on avait une représentation de théâtre dans le palais, je pense que ça ne pouvait pas se faire à Jérusalem. Donc est-ce que la tradition écrite était si forte que ça? C'était pas très très simple. On avait des tas de choses qu'on pouvait pas montrer.
Vous nous avez parlé du grand amour de sa vie, cette Mariamnée qu'il regrettait d'une certaine façon d'avoir fait exécuter. Il a fait exécuter ses enfants aussi. Il faut parler de ses fils, ça c'est quand même important.
Je crois que c'est Auguste qui a dit qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que les fils d'Hérode.
Ah oui, c'est terrible.
Parce que le traitement qu'il réservait à sa famille était absolument épouvantable. Moi, je pense qu'Hérode était quand même aussi un petit peu... Il a eu des problèmes psychologiques assez graves. Et il a eu une fin où il semble qu'il y a eu une espèce d'empoisonnement. Les dernières années de sa vie sont quand même une succession de meurtres paranoïaques absolument épouvantables.
Il est devenu un fou, quand même.
Il avait quand même un certain problème, oui. Puis il est mort quand même... Il est mort aussi d'une gangrène, comme Louis XIV.
Ah oui, vous voyez, décidément.
À travers
Racine et Corneille d'un côté, Versailles d'un autre côté, et puis tous ces points communs de caractère, on n'aura jamais été loin du XVIIe siècle dans cette émission.
Et les femmes.
Et les femmes, bien sûr. Oui.
Mariamé était quand même la plus importante, mais il a eu d'autres épouses, il y avait des favorites. C'était un roi très coureur. C'était vraiment. En plus, on le voit aujourd'hui, on a dans notre inconscient, c'est un peu Peter Ustinov qu'on voit. On voit cette espèce de gros bonhomme avec des cheveux gris.
Pourquoi? Parce que.
Et en fait, il était plutôt beau mec.
Peter Ustinov a interprété le rôle.
Bien sûr. Alors que Hérode, quand il a 20 ans, va à la chasse, il combat ses gladiateurs. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un type qui a de la gueule et qui est sûrement assez séducteur. Après, ça s'est gâté, mais il a eu une jeunesse comme tout le monde. On voit le vieux Poussa, le vieux potentat oriental cruel et énorme. Mais au départ, Hérode, c'est pas du tout ça.
Alors, il meurt de la gangrène, ce qui va permettre à certaines plumes acides de nous le montrer pourrissant vivant, d'une certaine
manière.
C'est
pas des plumes acides, c'est sans doute la vérité. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Hérode passait toujours l'hiver à Jéricho parce que le climat était plus doux qu'à Césarée ou à Jérusalem. Donc, il y faisait assez chaud. On est en Orient, il meurt d'une gangrène. À l'époque, on n'avait aucune idée de ce que c'était, donc ça a été soigné n'importe comment. Sa gangrène était vers le bas du ventre, donc je vous laisse imaginer comment ça se passait. Il paraît qu'il tombait en morceaux, littéralement de son vivant, en hurlant. On lui a fait prendre des bains de miel ou des bains d'huile d'olive bouillante pour essayer de soigner sa gangrène. Enfin, ça devait être épouvantable. On l'a charcuté autant qu'on l'a pu. Et la fin, effectivement, il est mort en pourrissant vivant, parce qu'on a des témoignages, il n'y avait aucune hygiène à l'époque. Donc je pense que ça doit être absolument terrifiant. Et on dit que les vers bougeaient sur son corps alors qu'il était encore vivant. Alors évidemment, la tradition chrétienne et la tradition juive se sont engouffrés dans le truc pour en faire une preuve évidente de la damnation d'Hérode, puisque les mauvais génies, Satan n'a même pas attendu qu'il soit mort pour s'en emparer, il l'a torturé de son vivant.
Mais cette tradition juive et cette tradition chrétienne ne sont-elles pas la clé pour expliquer l'importance de la figure d'Hérode par rapport à d'autres rois de Judée qui, eux, sont depuis longtemps passés à la trappe? Finalement, si j'ose dire, il a eu la chance de régner juste avant la naissance du Christ.
Alors, la question que vous posez, c'est en s'acharnant sur lui, à tort, ne l'ont-ils pas rendu plus célèbre que tous les autres? C'est peut-être vrai. Parce qu'en fait, si on ne l'avait pas accusé du massacre des innocents et de tous les forfaits qu'il n'a pas commis, et Dieu sait qu'il en avait commis d'autres, est-ce qu'on l'aurait pas oublié? Sans doute. Encore que, moi je crois quand même que les preuves archéologiques, Massada, Césarée, Jéricho, Jérusalem, Tibériade, en fait tout ce qu'il a construit, toutes les choses qu'il a faites qui sont extraordinaires aujourd'hui, si on va à part Saint-Jean d'Acre, qui est une ville croisée, donc du Moyen-Âge, si on est amateur d'histoire et on n'a pas besoin d'être religieux pour aller en Israël, on y va parce qu'on aime l'histoire et l'archéologie, c'est comme la vallée du Nil et c'est beaucoup plus sûr en plus en ce moment, allez en Israël et vous, tout ce que vous verrez à 90% remonte au temps d'Hérode.
Et comment les Israéliens gèrent-ils cette personnalité ambivalente d'Hérode?
Je crois qu'ils l'ont mal géré pendant longtemps,
oui.
Parce que ils étaient quand même globalement dans la perception qu'en avait la tradition chrétienne et la tradition juive. C'était un roi, l'un des premiers sites que les Zélotes, qui se sont rebellés contre les Romains, ont pillé au moment de la révolte de Massada, c'est la tombe d'Hérode à l'Hérodion.
Ah voilà.
Hérode était un roi honni des Juifs après sa mort. Les Zélotes qui se sont rebellés contre les Romains ont aussi condamné son souvenir parce qu'il était considéré comme un roi collabo. Donc il y avait encore une autre raison de le détester. On a fracassé son sarcophage sur l'Hérodion, on a détruit la chambre mortuaire. L'une des raisons pour lesquels on a identifié son sarcophage, c'est justement qu'il avait été fracassé à ce point-là.
Mais il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que moi je me rappelle avoir été au micro quand on a reçu cette dépêche disant qu'on avait
identifié du roi Hérode.
Il y a quelques années de ça.
Il y a quelques années. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que les Israéliens ont commencé à se dire que ce type avait construit des choses fabuleuses, que Massada s'était cassé la gloire nationale, Césarée c'est un site fabuleux, Hérode a été la plus grande expression politique du royaume d'Israël et une période de paix et de prospérité, il faut le savoir quand même, parce que la région est quand même pas très...
C'est une exception dans cette histoire.
C'est une exception dans cette histoire. Et aujourd'hui, ils admettent quand même, en tout cas officiellement et politiquement, le principe. C'est ce qui a donné lieu à cette grande exposition qui a duré un an à Jérusalem, qui a été prolongée. Mais alors là où l'histoire est quand même fabuleuse, c'est que l'archéologue, je m'excuse si je cite mal son nom, parce que je crois que c'est Ehud Ezner ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolé si j'écorche son nom, parce que c'est un type fabuleux qui a consacré sa vie à Hérode pendant 30 ans. Il a découvert la tombe d'Hérode après des années et des décennies de recherche. Il a identifié l'endroit sur l'Hérodion, qui est donc une pyramide artificielle, où se trouvait cette tombe. Et il est mort parce qu'il est tombé du site. Donc là, une fois de plus, tout le monde s'est engouffré dans la malédiction d'Hérode. Et c'était un peu tout en camion de nouveau. Donc ce pauvre Hérode, il est quand même maudit du début jusqu'à la fin.
Et pour tout avouer à nos auditeurs, nous avons eu une émission un tout petit peu difficile. C'est ma faute, hein. J'ai fait une erreur ce matin et donc tout a été très compliqué. Heureusement que Marion Sauveur et Lorena Martin étaient là. Et Lorena a fait une véritable mission de sauvetage pour cette émission. Mais j'ai envie de dire, décidément, Hérode nous a poursuivis jusqu'à... jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est...
Et moi-même, j'ai eu une journée, une matinée très compliquée, pour vous dire la vérité.
Bon, ben
mais
voilà.
J'aime bien quand même, je reste un fanatique.
L'esprit d'Hérode est avec nous. Merci beaucoup, Vincent Mélan. Vous êtes en train de travailler sur toute autre chose en ce moment, j'imagine?
Bah écoutez, je travaille à Point de Vue comme toutes les semaines, mais je travaille aussi sur mon prochain livre. Et pour vous dire la vérité, je viens de terminer un film.
Ah bon? On peut savoir de quoi il est question? Non, pas encore.
Avec moi, il est toujours question de pierres précieuses, d'histoire, et vous savez, tout le monde a sa boule de cristal. Moi, c'est les cailloux genre diamant. Ça me fait parler.
Et puis, je tenais à citer le Hérode le Grand de Christian-Georges Schwenzel, qui a été publié chez Pygmalion il y a 2 ans. Merci beaucoup, Vincent Mélan.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benoît sur les origines de l'appellation d'Asie mineure pour désigner la partie asiatique de l'actuelle Turquie.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Benoît qui nous l'a envoyé sa question via la page Facebook de l'émission. Benoît veut savoir pourquoi fait-on référence à l'Asie mineure pour parler de la partie asiatique de la Turquie.
On reste à peu près dans la même région. L'Asie mineure, c'est donc l'autre nom de l'Anatolie. Pourquoi Asie mineure? Eh bien, tout simplement pour l'opposer à ce qui autrefois était l'Asie majeure, hein, c'est-à-dire le reste du continent asiatique, mineure parce qu'elle était là, tout proche, aux portes du monde grec. Elle était certes chez les barbares, mais pas trop loin quand même. Quant au terme d'Anatolie, il est apparu assez tard, au Xe siècle, il vient du grec Anatolé, faut pas oublier qu'on est dans l'Empire byzantin là, et que c'est le lever du soleil, hein, c'est l'Orient, donc c'est tout simplement la région orientale. On est au bord de la mer Noire, qui autrefois s'appelait le pont Euxin, parce qu'il y avait comme ça des termes pour tout. Alors pourquoi Pont-Euxin? Mais parce que lorsque les Grecs sont arrivés dans cette région, ils ont trouvé la mer inhospitalière. Donc en grec, ça se dit Axainos Pontos. Et puis, quand ils ont appris à en maîtriser les récifs, les courants, les vents, ils ont décidé de la rebaptiser Euxainos Pontos, c'est-à-dire la mer accueillante, ce qu'on a traduit nous en français par Pont-Euxin. Je pourrais vous parler de la Méditerranée, qui était évidemment le Mare Nostrum, notre mer des anciens. La mer Noire, d'ailleurs, pourquoi la mer Noire? Eh bien, c'est un terme qui apparaît au 15e siècle seulement, et on ne sait pas exactement d'où vient le terme, mais il semblerait que ce soit lié aux couleurs que les Turcs attribuaient à chacun des points cardinaux. Et comme cette mer était au nord, elle avait la couleur du nord qui était le noir, d'où la mer Noire. Rien à voir avec la couleur de ses eaux, c'est le moins qu'on puisse dire.